Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant, la presse. Au programme, ces Québécois qui tournent le dos à l'Église. Dégringolade du français écrit, à qui la faute? Manifestation en Géorgie. Il a toujours été question de l'Europe. Et le groupe Wagner ouvre ce centre de recrutement en Russie. Bonne écoute.
Ces Québécois qui tournent le dos à l'Église. Un texte de Philippe Mercure, paru le 5 mars 2023 dans La Presse. Vous avez des questions sur nos éditoriaux, des interrogations sur les sujets chauds de l'actualité? Chaque semaine, l'équipe éditoriale répond aux lecteurs de La Presse. Jean-Paul Bourgeois nous pose cette question. Comment faire une apostasie? J'ai été baptisé sans mon consentement et je ne pratique plus depuis très longtemps. Il serait temps que je renonce par apostasie à cette organisation qui ne veut plus rien dire à ma pensée. Vous n'êtes visiblement pas seul à vous poser cette question, M. Bourgeois. Dans la foulée des nombreux scandales qui ont secoué l'Église catholique au cours des dernières années, plusieurs diocèses nous l'ont confirmé, les demandes d'apostasie sont en hausse. L'apostasie est l'acte par lequel une personne baptisée renie sa foi et rompt avec l'Église. On demande essentiellement à l'Église de retirer son nom de sa liste de fidèles. Pour le faire, il suffit, en principe, d'envoyer une lettre écrite au diocèse dans lequel vous avez été baptisé en expliquant que vous souhaitez quitter l'Église catholique. En 2021, la chroniqueuse du Devoir, Émilie Nicolas, a toutefois montré à partir de témoignages que les démarches peuvent varier d'un diocèse à l'autre. Certains diocèses exigent de fournir le baptistère et la signature de deux témoins. D'autres demandent une confirmation des intentions après la réception de la lettre ou vont jusqu'à donner un coup de fil ou envoyer la visite d'un prêtre. Si on tape « Apostasie Québec » dans Google, on tombe rapidement sur le site web de l'Association humaniste du Québec, un regroupement de personnes athées et agnostiques qui s'est un peu donné la mission de faciliter les démarches de ceux qui veulent sortir de l'Église. Le site affiche un lien vers un formulaire d'apostasie à imprimer qui inclut notamment la signature de deux témoins. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de ne rien oublier, nous dit Michel Virard, porte-parole du mouvement. Il n'existe pas de statistiques officielles sur l'apostasie pour l'ensemble du Québec, mais quelques reportages dans les médias québécois ont rapporté une hausse récente des demandes dans certains diocèses. Il faut dire que l'Église catholique n'a pas bonne presse depuis quelques années. Encore récemment, l'émission Enquête de Radio-Canada est revenue sur des viols, des morts suspectes et des disparitions survenues dans des pensionnats au Québec et aux États-Unis. À l'été 2021, les Canadiens ont également découvert avec horreur le drame des pensionnats autochtones. À Sherbrooke, par exemple, Radio-Canada rapportait l'été dernier que le diocèse recevait environ 5 demandes par mois depuis 2 ans, contre une dizaine par année auparavant. Nos appels logés dans quelques diocèses confirment le phénomène. Nous remarquons une hausse des demandes d'apostasie ces dernières années. Nous accueillons quelques dizaines de demandes par année dans notre diocèse qui compte une population de plusieurs centaines de milliers de personnes baptisées, dit par exemple Valérie Roberge-Dion, directrice des communications de l'Église catholique de Québec. Il y a une hausse, c'est sûr. Depuis 1 an ou 2, on en voit beaucoup, nous dit-on également au diocèse de Saint-Jean-Longueuil sur la rive sud. À Montréal, on évoque même une mode. À Québec, Mme Roberge-Dion affirme que les raisons qui justifient les apostasies ne sont pas toujours spécifiées. Lorsque c'est le cas, elle note que plusieurs souhaitent se joindre à d'autres groupes religieux qui font de l'apostasie une condition d'admission, comme les témoins de Jéhovah. On lit parfois dans les demandes que des gens ne sont pas d'accord avec le choix du baptême fait par leurs parents et souhaitent en faire un autre maintenant. D'autres mentionnent qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce que propose ou représente l'Église, valeurs, positions, enseignements, etc. Les cas d'abus sexuels sont mentionnés à l'occasion. Les implications de membres de l'Église dans le système des pensionnats ont été soulevées dans certaines autres demandes, nous écrit-elle. Elle tient toutefois à souligner que bien des adultes font le mouvement inverse en demandant une confirmation ou un baptême d'adulte pour entrer dans l'Église. C'était « Ces Québécois qui tournent le dos à l'Église », un texte de Philippe Mercure, paru le 5 mars 2023 dans La Presse.
Dégringolade du français écrit. À qui la faute? Un texte de Pierre Calvé, professeur de linguistique retraité, paru le 28 janvier 2023 dans La Presse. La pandémie a beau avoir le dos large, elle ne peut pas tout expliquer. Déjà, le 6 mars 2008, La Presse publiait un texte du journaliste Denis Lessard intitulé « Les résultats en dictée piquent du nez », où il affirmait que si le taux de succès des élèves était basé sur la connaissance de l'orthographe, ce serait l'hécatombe dans les écoles secondaires du Québec. Et le 5 novembre 2009, Daphné Dion-Vian, journaliste au Soleil, écrivait que selon la moitié des professeurs, les élèves ne savent pas écrire. Et puis, le 6 décembre 2022, la direction de l'évaluation du ministère français de l'Éducation nationale a publié une étude révélant que dans une même dictée de 67 mots donnée par intervalle à des élèves de niveau primaire entre 1987 et 2021, le nombre de fautes était passé en moyenne de 10,7 à 19,4 fautes, soit presque le double. Dans leur rapport, les chercheurs crurent bon ajouter que l'orthographe française est l'une des plus complexes au monde et nécessite un apprentissage long et fastidieux. Va-t-on finir par comprendre qu'on aura beau jeter le blâme sur tous les intervenants et toutes les circonstances qu'on voudra, la faute réside avant tout dans la nature même de ce qu'on veut faire apprendre aux élèves, alors que les conditions longues et fastidieuses pour ce faire n'existe tout simplement plus. La maîtrise de notre orthographe, qui ne devrait pas être la composante la plus importante et problématique de l'apprentissage de l'écriture, pourrait raisonnablement s'acquérir dans les conditions actuelles, mais à condition qu'on lui fasse subir une sérieuse cure de minceur, comme l'ont fait avec succès de nombreuses autres langues, dont ces langues sœurs du français que sont l'italien, l'espagnol et le portugais. Comme le disait si bien François de Closet dans son ouvrage « Zéro faute » édition « Mille et une nuits » 2009, la grande mutation de notre langue se déroule sous nos yeux dans l'incompréhension générale. Les nouvelles technologies, qui font de l'écriture le moyen privilégié du 21e siècle, condamnent le statut traditionnel de notre orthographe dans notre culture. Ce qu'il faudrait, c'est donc une réforme en profondeur de l'orthographe et non seulement une réformette comme celle de 1990 qui n'a d'ailleurs jamais été imposée et qui a fini par mêler tout le monde. Mais la simple idée d'une telle réforme reçoit inévitablement une farouche opposition, d'où ces rectifications à la pièce. Un bel exemple de la sacralité de l'orthographe pour les francophones est le tollé qu'a soulevé la proposition d'écrire dans la nouvelle orthographe Nénuphar, N-E-N-U-F-R, au lieu de Nénuphar, N-E-N-U-P-H-R, afin de corriger une simple erreur étymologique. Or, non seulement l'italien, l'espagnol et le portugais écrivent-ils Nénuphar, N-E-N-U-F-R, ils écrivent aussi, sans se soucier de l'étymologie, orthographia, philosophia, pharmacia, où le PH est remplacé par F, ainsi que rythmo, rythme, où le YTH est remplacé par IT. Cette priorité accordée à la transparence, la correspondance entre la graphie et la prononciation des mots dans la refonte de leur orthographe a fait en sorte que les élèves y font beaucoup moins de fautes que les jeunes francophones, ce qui leur permet de passer à des choses plus signifiantes, plus productives, dont l'acquisition de l'écriture. Il n'est absolument pas nécessaire, pour assurer la clarté de la communication, de savoir choisir pour transcrire le seul son « o » en français parmi les graphies « o », « os », « ot », « o accent circonflexe t », « op », « oc », « au », « aux », « eau », « eaux », « haut », « ault », « eault ». Et il en va de même de cette armée de suffixes grammaticaux, la plupart inexistants en langue parlée et qui servent, par exemple, à faire ou ne pas faire l'accord du participe passé dans une phrase comme « les choses que j'ai crues »,« devoir apprendre me sont apparues »,« injustifiées ». Et si on ne fait pas ici ces accords, la clarté s'en ressent-elle? Ceux qui s'opposent à une simplification de l'orthographe évoquent souvent l'atteinte à sa beauté et à sa richesse, le nivellement par le bas, le sacrifice d'un excellent instrument de formation intellectuelle. Or, il ne faut pas confondre l'outil et ce qu'on peut en faire. La notation musicale, cette orthographe de la musique, est un outil infiniment plus simple, plus transparent, plus convivial que l'orthographe française, et pourtant, il peut servir à produire les plus grands chefs-d'œuvre. Il ne faut pas non plus confondre nivellement par le bas et démocratisation de l'éducation. Rendre tout le monde capable d'écrire le français sans cette logorée de fautes qu'on trouve dans les médias sociaux serait un grand nivellement par le haut. Et pour ce qui est de la formation intellectuelle, c'est dans la conception, l'organisation et la transcription des idées en phrases bien construites au moyen d'un vocabulaire riche et précis qu'on la trouve, pas dans l'apprentissage fastidieux d'une orthographe bourrée de traquenards et de règles inutiles. Paul Valéry, ce grand poète, disait « Je ne parlerai pas de notre orthographe, malheureusement fixée en toute ignorance par les pédants du XVIIe siècle, et qui n'a laissé dès lors de désespérer l'étranger et vicier la prononciation d'une quantité de mots. » C'était « Dégringolade du français écrit ». À qui la faute? Un texte de Pierre Calvé, professeur de linguistique retraité, paru le 28 janvier 2023 dans La Presse. Manifestation en Géorgie. Il a toujours été question de l'Europe. Un texte de Katerina Zviderska, étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal, paru le 10 mars 2023 dans La Presse. C'est l'histoire de deux jeunes portant fièrement le drapeau de l'Union européenne, affrontant à main nue des forces policières abusant de leur pouvoir, faisant face à des soldats russes envahissant leur territoire. C'est l'histoire d'un Ukrainien et d'un Géorgien, au sort lié, qui rêvent d'un avenir démocratique, européen et détaché de l'impérialisme russe. Il règne un air de déjà-vu ces jours-ci dans les rues de Tbilissi, capitale de la Géorgie. Ces images de dizaines de milliers de jeunes et moins jeunes exprimant leur mécontentement face à leur gouvernement nous rappellent certainement celles de Kiev de l'hiver 2013-2014, l'émoi de l'Euromaïdan. Hiver lors duquel près de 4 millions d'Ukrainiens sont sortis dans les rues de la capitale, mais aussi dans celles de Donetsk, de Sébastopol, d'Odessa, de Kherson, pour protester contre les pressions du Kremlin sur l'ex-président Yanukovych de rompre les liens avec l'Europe. Le 28 février 2022, dans la foulée de l'invasion russe, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie ont déposé une demande officielle d'adhésion à l'Union européenne. Or, contrairement aux deux premières, la Géorgie n'a pas obtenu le statut de pays candidat au sommet à Bruxelles à ce sujet en juin 2022. Elle aurait du rattrapage à faire en matière de réformes institutionnelles. Réformes qui sont freinées, entre autres, par les positions anti-européennes de plusieurs cercles de pouvoir géorgiens. Le spectre russe. Ces orientations se manifestent aujourd'hui au Parlement géorgien dirigé par le premier ministre Irakli Garibashvili, un oligarque ayant fait fortune en Russie. Celui-ci a adopté en première lecture deux projets de loi obligeant les organisations civiles et les médias à s'enregistrer en tant qu'agents d'influence étrangère. L'inspiration? La Russie. En 2012, Moscou adoptait un texte liberticide similaire sur les agents étrangers visant à sanctionner tout soutien étranger à un organisme œuvrant sur le territoire russe. Depuis, il a surtout été instrumentalisé pour emprisonner les opposants politiques, ce dont on a peur également à Tbilissi. Loi incompatible, selon Human Rights Watch, avec les normes de liberté d'expression et d'association. Ces textes ont suscité une forte colère et des manifestations dans les rues des villes géorgiennes. D'abord pacifiques, elles ont surtout entraîné des heurts entre forces de l'ordre et populations. « No to the Russian law »,« Non à la loi russe », scandent les manifestants. Canons à eau, gaz lacrymogène et violence physique. Voilà ce qui attend un peuple libre aspirant à l'Europe et à la démocratie. Au matin du 9 mars, le Parlement a promis de retirer ses lois, mais rien n'est acquis. Le peuple continue à manifester et réclame un changement complet de gouvernement ainsi que des élections anticipées, ce qui témoigne du mécontentement général. Ambition européenne. Certes, se pose la question de l'OTAN. Certes, les garanties de sécurité et la défense collective. Certes, les intérêts stratégiques. Or, ce que peine à comprendre bon nombre d'experts est qu'autant les Ukrainiens que les Géorgiens souhaitent surtout un avenir européen démocratique. Les revendications viennent du bas, respectivement 91% et 85% de la population soutiennent une adhésion à l'Union européenne. Les citoyens souhaitent d'abord et avant tout tourner le dos à leurs voisins impérialistes et sont prêts à donner leur vie pour rejoindre le projet d'intégration européenne. Puis, en tant que société ayant la démocratie tant à cœur, qui sommes-nous pour leur dire non? Qui sommes-nous pour forcer ces nations assoiffées de liberté à déposer des armes, à arrêter de protester, à se soumettre à l'autoritarisme russe? Le soutien européen, puis plus largement occidental, à l'Ukraine et à la Géorgie, est remarquable et exceptionnel, mais comporte des lacunes. Certaines insuffisances qui se cristallisent en divisions politiques, au sein d'États qui se sont bien trop éloignés des projets initiaux de Jean Monnet et de Maastricht. Il faut rappeler que si la Russie envahissait la Géorgie en 2008, c'est en réponse à ses ambitions européennes. Si elle a fait de même en 2014 puis en 2022 en Ukraine, c'est pour les mêmes raisons. Depuis le début, il a toujours été question de l'Europe. Nous nous devons donc de nous battre aux côtés de ces futurs citoyens européens ayant du cœur au ventre face à des missiles et des projectiles de caoutchouc. Pour l'avenir de ces pays dont l'histoire se joue, pour les droits de la personne et pour lutter contre l'impérialisme russe, car à la manière de Simone Veil, première femme présidente du Parlement européen, les Géorgiens et les Ukrainiens, l'espoir, c'est en Europe qu'ils le placent. C'était « Manifestation en Géorgie ». Il a toujours été question de l'Europe. Un texte de Katerina Zviderska, paru le 10 mars 2023 dans la presse. le groupe Wagner ouvre des centres de recrutement à travers la Russie. Un texte de l'agence France-Presse paru le 10 mars 2023 dans la Presse Plus. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé vendredi l'ouverture de 58 centres de recrutement dans 42 villes de Russie, alors qu'il cherche à reconstituer ses troupes qui essuient de lourdes pertes dans l'est de l'Ukraine. Le groupe Wagner est en première ligne dans la bataille pour la ville ukrainienne de Bakhmout et son patron, Evgeny Prigogine, a lui-même reconnu que de nombreux combattants de son organisation y avaient été tués. Sur fond de tension avec le ministre de la Défense, M. Prigogine s'est plusieurs fois plaint de ne plus pouvoir recruter dans les prisons russes où Wagner a massivement enrôlé des détenus en échange de réduction de peine. Changeant de tactique, il s'est récemment tourné vers les salles de sport pour y ouvrir des points de recrutement afin d'attirer des recrues potentielles. Dans 42 villes de la Fédération de Russie, des centres de recrutement pour le compte de Wagner ont ouvert. De nouveaux combattants arrivent là-bas. Ils nous accompagneront pour défendre leur pays et leur famille, a déclaré vendredi M. Prigogine dans un communiqué publié par son service de presse. Son message était accompagné d'une liste de ces centres de recrutement, dont la majorité semble avoir ouvert dans des salles de sport et de clubs d'arts martiaux. M. Prigogine n'a toutefois pas précisé combien de combattants contractuels il comptait recruter via ces centres et en combien de temps. Cette annonce intervient alors que Wagner a essuyé de très lourdes pertes dans les combats qui durent depuis plusieurs mois autour de Bakhmout, une ville du Donbass ukrainien devenue l'épicentre des hostilités avec l'armée de Kiev. Pour endiguer une série de revers humiliants sur le champ de bataille l'été dernier, la Russie avait annoncé en septembre la mobilisation de 300 000 réservistes. Parallèlement, le groupe Wagner avait eu l'autorisation de recruter dans les prisons russes plusieurs milliers de combattants en échange d'une amnistie après 6 mois passés sur le front. Mais ces dernières semaines, des tensions entre l'état-major et le patron de Wagner ont éclaté au grand jour. Alors que la Russie, à l'offensive dans le Donbass, n'y a connu que de faibles avancées. Evgeny Prigogine a ainsi multiplié à plusieurs reprises les critiques virulentes à l'encontre de la hiérarchie militaire russe, fustigeant tour à tour son inefficacité, sa lenteur et ses mauvaises décisions en Ukraine. Il a accusé les autorités de ne pas fournir les munitions nécessaires à ses hommes et le ministre de la Défense et le chef de l'armée de vouloir détruire son groupe Wagner. Malgré la résistance colossale des forces armées ukrainiennes, nous avancerons. Malgré les bâtons qui nous sont mis dans les roues, ellipse, nous surmonterons cela ensemble, a-t-il juré vendredi. En dépit des désaccords entre Wagner et l'armée, les forces russes ont progressé ces derniers jours autour de Bakhmout, menaçant d'encercler cette ville que les Ukrainiens continuent de défendre avec acharnement. 3 soldats ukrainiens condamnés par les séparatistes pro-russes. Les séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine ont condamné à de lourdes peines de prison 3 militaires ukrainiens qu'ils accusaient d'avoir commis des « violences envers des civils », a annoncé vendredi le comité d'enquête russe. Capturés pendant l'offensive russe en Ukraine, Viktor Pokozei, Maxim Boutkevich et Vladislav Shell ont été reconnus coupables de violence envers la population civile et de recours à des méthodes interdites lors d'un conflit armé, a indiqué dans un communiqué cette instance chargée des principales investigations en Russie. M. Boutkevich et M. Shell, également reconnus coupables de tentatives d'assassinat sur plusieurs personnes, ont écopé respectivement de 13 et 18 ans et demi de réclusion. M. Pokozei a été condamné à 8 ans et demi de prison. Ces peines ont été prononcées par les cours suprêmes des territoires séparatistes pro-russes de Donetsk et de Louhansk, contrôlés par Moscou, qui en a revendiqué l'an dernier l'annexion, non reconnue par la communauté internationale. militant ukrainien des droits de l'homme et fondateur de la radio indépendante Ashromatsk Radio, Maxim Boutkevitch a rejoint l'armée ukrainienne en mars 2022, peu après le début de l'offensive russe en Ukraine. Les enquêteurs russes l'ont accusé d'avoir blessé deux civils après avoir tiré avec un lance-grenade anti-char sur un immeuble résidentiel à Sivirodonetsk, ville conquise par l'armée russe en juin dernier dans la région de Louhansk. Pour sa part, M. Pokozeï, l'un des commandants du régime Azov, notamment composé de nationalistes ukrainiens et qui s'est illustré dans la défense de la ville de Mariupol, conquise par les Russes après un siège dévastateur de plusieurs mois, a été accusé d'avoir frappé une civile avec son fusil. Lui aussi combattant du régime Azov, Vladislav Shchel a été accusé d'avoir ouvert le feu sur un civil avec l'objectif d'intimider des civils dans un immeuble résidentiel à Mariupol. Réagissant à ces condamnations, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a dénoncé un faux procès qui visait à légaliser un nouveau massacre politique de citoyens ukrainiens. Les peines prononcées sont illégales et nulles et non avenues, a-t-il ajouté dans un communiqué, appelant la communauté internationale à condamner le procès et exiger auprès de Moscou la libération des trois soldats ukrainiens condamnés. C'était « Le groupe Wagner ouvre des centres de recrutement à travers la Russie ». Un texte de l'Agence France-Presse paru le 10 mars 2023 dans la Presse Plus.
Vous pouvez retrouver ces émissions sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Daniel Veillette, Francine Thériault et Evelyne Séverin à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.